Je ne peux pas dire que les mots que j'ai prononcés ce jour-là aient servi à grand-chose, sinon à conforter l'idée que Wall Street se faisait de moi, un anti-business. Ironie du sort, cette même réunion serait plus tard citée par les critiques de gauche comme un exemple de la façon dont, dans mon incompétence, et parce que je faisais copain-copain avec Wall Street, j'avais échoué à mettre les banques devant leurs responsabilités durant la crise. Les deux visions étaient erronées. En revanche, une chose était vraie, en optant pour le test de résistance et en respectant les 2 mois d'attente pour obtenir les résultats préliminaires, j'avais différé les moyens de pression que je pouvais exercer sur les banques. Ce qui était vrai aussi, c'est que je me sentais obligé de ne pas prendre d'initiative précipitée tant que la crise économique me contraignait à être sur tant de fronts à la fois, y compris celui de l'industrie automobile, qu'il me fallait empêcher de tomber dans le précipice. Tout comme l'implosion de Wall Street était l'aboutissement de problèmes structurels présents depuis longtemps au sein du système financier mondial, les Big Three de l'industrie automobile souffraient de maux, mauvaise gestion, mauvaise voiture, concurrence internationale, hausse vertigineuse des soins de santé, surdépendance aux ventes à forte marge de véhicules SUV gros consommateurs de carburant, qui les minaient depuis des décennies. La crise financière et la récession qui s'aggravaient n'avaient fait que hâter l'heure de vérité. À l'automne 2008, les ventes automobiles avaient plongé de 30%, atteignant leur point le plus bas depuis plus d'une décennie, et General Motors, GM et Chrysler étaient en défaut de liquidité. Si Ford était légèrement en meilleure forme, en partie grâce à une restructuration fortuite de sa dette juste avant que n'éclate la crise, les analystes doutaient que l'entreprise survive à un effondrement des deux autres, dans la mesure où les 3 fabricants automobiles dépendaient des mêmes fournisseurs de pièces détachées implantés dans toute l'Amérique du Nord. Juste avant Noël, Hank Paulson avait procédé à une interprétation inventive des règles du TARP pour allouer plus de 17 milliards à GM et à Chrysler en crédit relais. Mais ne disposant pas du capital politique pour obliger Chrysler à adopter une solution plus pérenne, le gouvernement Bush n'avait réussi qu'à placer provisoirement l'entreprise sous respirateur artificiel jusqu'à mon entrée en fonction. Maintenant que les liquidités venaient à manquer, c'était à moi que revenait la décision d'injecter à nouveau des milliards chez les constructeurs auto afin de les maintenir à flot. Dès la transition, il était évident aux yeux de mon équipe que GM et Chrysler allaient devoir passer en redressement judiciaire. Sans cela, ils n'avaient pas moyen de faire face aux besoins en liquidité qui arrivaient chaque mois, quel que soit l'optimisme des prévisions de vente. En outre, la faillite ne suffirait guère. Pour justifier des aides supplémentaires de l'État, les constructeurs automobiles allaient devoir entreprendre une méticuleuse réorganisation de A à Z de l'activité et trouver le moyen de fabriquer des voitures que les gens voulaient acheter. « Je ne comprends pas pourquoi Détroit n'est pas capable de fabriquer une simple Corolla, bon sang », ai-je maugré plus d'une fois devant mon staff. Dans les deux cas, c'était plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord, les cadres supérieurs de GM et de Chrysler faisaient passer les banquiers de Wall Street pour des visionnaires. Lors d'une première discussion avec notre équipe économique de transition, l'exposé de Rick Wagoner, le PDG de General Motors, était tellement bâclé et truffé de considérations démesurément optimistes, tablant sur une augmentation des ventes de 2% chaque année alors qu'elles avaient décliné durant une bonne partie de la décennie ayant précédé la crise, que même Larry en est resté un moment sans voix. Pour ce qui était de la faillite, le processus pour GM comme pour Chrysler serait probablement comparable à une opération à cœur ouvert. Compliquée, sanglante, risquée. Tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin, le management, les employés, les fournisseurs, les actionnaires, les retraités, les distributeurs, les créanciers, toutes les régions où étaient implantées les usines, y perdraient quelque chose à court terme, ce qui est devenu le motif de négociations longues et âpres lorsqu'il n'a plus été certain que les deux sociétés survivent, ne serait-ce qu'un mois de plus. Certains éléments jouaient en notre faveur. Contrairement à la situation avec les banques, obliger GM et Chrysler à se restructurer ne risquait pas de déclencher une panique de plus grande ampleur, ce qui nous laissait davantage de marge pour exiger des concessions en échange du soutien indéfectible de l'État. Autre élément favorable, ma relation personnelle forte avec le syndicat United Auto Workers, dont les dirigeants reconnaissaient que des changements majeurs devaient être entrepris pour que ses membres puissent conserver leur emploi. Plus important, notre groupe de travail sur le secteur automobile, piloté par Steve Rattner et Ron Blum, auquel s'était joint un brillant stratège de 31 ans, Brian Deese, se révélait épatant, combinant rigueur d'analyse et appréciation de la dimension humaine, conscient, avec plus d'un million d'emplois en jeu, de la nécessité de bien faire. Ils avaient entamé les discussions avec les constructeurs auto bien avant mon investiture, accordant à GM et à Chrysler 60 jours pour présenter des plans formels de réorganisation démontrant leur viabilité. Pour assurer que les sociétés ne s'effondreraient pas pendant cette période, ils avaient prévu une série d'interventions progressives mais cruciales, garantissant par exemple aux deux sociétés des créances recouvrables auprès des fournisseurs pour ne pas se retrouver à court de pièces détachées. À la mi-mars, le groupe de travail sur le secteur automobile est venu dans le bureau ovale pour faire un point sur la situation. Aucun des deux plans que GM et Chrysler avaient transmis ne tenait la route, ont-ils dit. Les deux sociétés vivaient encore dans un monde fantasmatique de prévisions de ventes irréalistes et de stratégies vagues pour tenter de juguler les coûts. L'équipe estimait en revanche que, avec un redressement judiciaire sans concession, GM pouvait se remettre sur les rails et recommandait qu'on lui accorde à nouveau 60 jours pour revoir la copie de son plan de restructuration, à condition qu'ils acceptent de remplacer Rick Wagoner et le reste du conseil d'administration. Concernant Chrysler, notre équipe était partagée. Chrysler, le plus petit constructeur des Big Three, était aussi l'entreprise financièrement la plus mal en point et, hormis sa marque Jeep, proposait une ligne de produits qu'il paraissait impossible de sauver. Au vu de nos ressources limitées et de la fragilité du secteur automobile en général, certains dans l'équipe avançaient que nous avions plus de chances de sauver GM si nous renoncions à Chrysler. D'autres soulignaient que nous ne devions pas sous-estimer le choc économique potentiel qui découlerait de l'effondrement d'une marque américaine emblématique. Quoi qu'il en soit, le groupe de travail m'a signifié que la situation chez Chrysler se dégradait à vitesse grand V et qu'il fallait par conséquent que je prenne ma décision sur le champ. À cet instant, mon assistante Katie a passé la tête dans l'encadrement de la porte pour m'annoncer que je devais me rendre dans la salle de crise avec mon équipe de sécurité nationale. Conscient qu'il me faudrait sans doute plus d'une demi-heure pour décider du sort de l'industrie automobile américaine, j'ai demandé à Ram de reconvoquer le groupe de travail avec mes trois principaux conseillers, Valérie, Pete et Axe, dans la salle Roosevelt pour une réunion plus tard dans l'après-midi, afin que l'on m'expose les deux points de vue. Encore une question de méthode. Au cours de cette réunion, j'ai écouté Gene Sperling argumenter en faveur du sauvetage de Chrysler, et Christy Romer et Austin Goolsbee expliquer pourquoi continuer à soutenir l'entreprise revenait à jeter de l'argent par les fenêtres. Ram et Axe, toujours sensibles à la dimension politique de la situation, ont fait remarquer que le pays, par une remarquable marge de 2-1, s'opposait à ce que l'État, une fois de plus, renfloue une grosse entreprise. Même dans le Michigan, les soutiens atteignaient à peine la majorité. Ratner a indiqué que Fiat avait récemment fait part de son intérêt pour l'achat d'une partie significative du capital de Chrysler et que son PDG, Sergio Marchionne, qui avait repris la direction de cette entreprise chancelante en 2004, en avait fait en un an et demi, de manière impressionnante, une affaire saine qui générait des bénéfices. Les discussions avec Fiat n'en étaient toutefois qu'à la phase préliminaire, et personne ne pouvait garantir qu'une intervention suffirait à remettre Chrysler sur les rails. C'était une décision à 51-49, comme disait Ratner, avec une forte probabilité que les chances de réussite paraissent plus faibles une fois la faillite prononcée et après avoir vu de plus près ce qu'elle avait vraiment sous le capot. J'ai consulté les graphiques, étudié les chiffres, relevé de temps en temps les yeux pour contempler les portraits de Teddy Roosevelt et de Franklin Roosevelt accrochés au mur. Puis est venu le moment où Gibbs a pris la parole. Il avait au préalable travaillé sur la campagne de Debbie Stabenow dans le Michigan et s'appliquait à présent à nous montrer une carte sur PowerPoint figurant toutes les usines Chrysler dans le Midwest. « Monsieur le Président, a-t-il dit, je ne suis pas économiste et je ne sais pas comment gérer un constructeur automobile. Mais ce que je sais, c'est qu'on a passé les 3 derniers mois à essayer d'éviter une nouvelle grande dépression. Or, il s'avère que dans nombre de ces villes, la crise est déjà là. Si on coupe les vivres maintenant à Chrysler, c'est comme si on signait un arrêt de mort pour tous les points que vous voyez sur la carte. Chaque point correspond à des milliers d'ouvriers qui comptent sur nous. Des gens comme vous en avez rencontré pendant la campagne, qui perdront leur assurance maladie, leur retraite, trop âgés pour retrouver une activité. Je ne vois pas comment vous pouvez leur tourner le dos. Je ne crois pas que ce soit pour ça que vous avez brigué la présidence. J'ai fixé les points sur la carte, plus d'une 20 en tout, répartis sur le Michigan, l'Indiana et l'Ohio. Je suis retourné en esprit à l'époque où j'étais militant associatif à Chicago, quand je retrouvais d'anciens ouvriers de la sidérurgie au chômage, dans le froid de locaux syndicaux ou de sous-sols d'église, afin de discuter de leurs inquiétudes pour leur quartier. Je revoyais leurs corps lourds sous les manteaux d'hiver, leurs mains couvertes de gerçures et de durillons, leurs visages, blancs, noirs, de toutes les origines, trahissant le désespoir silencieux d'hommes qui n'avaient plus de but dans la vie. Je n'avais pas pu faire grand-chose pour eux à l'époque. Leurs usines avaient déjà fermé au moment où j'étais arrivé, et les gens comme moi n'avaient aucun moyen de pression sur les cadres supérieurs inaccessibles qui prenaient les décisions. J'étais entré en politique avec l'idée que je serais peut-être un jour capable d'offrir une aide plus substantielle à ces travailleurs et à leurs familles. Le moment était venu. Je me suis tourné vers Ratner et Bloom et leur ai demandé d'appeler Chrysler et de me mettre en communication avec eux. Si, avec notre soutien, l'entreprise pouvait négocier un accord avec Fiat, ai-je dit, un plan de développement réaliste, sérieux, pour repartir du bon pied après un redressement judiciaire, le tout dans un laps de temps raisonnable, nous nous devions d'offrir cette chance aux travailleurs et à leur communauté. L'heure du dîner approchait et j'avais encore plusieurs coups de fil à passer depuis le bureau ovale. Je m'apprêtais à clore la réunion quand j'ai remarqué Brian Dees qui levait timidement la main. Il était le plus jeune membre du groupe, avait à peine pris la parole pendant la discussion, mais même si je l'ignorais alors, c'était en réalité lui qui avait préparé la carte et la présentation de Gibbs sur les coûts humains qui accompagneraient le lâchage de Chrysler. Des années plus tard, il me confierait avoir estimé que l'argument aurait plus de poids s'il était présenté par un membre plus haut placé du staff. Ayant constaté que son PowerPoint avait convaincu et se sentant en confiance, Dees a voulu souligner les avantages potentiels que présentait l'option que j'avais prise, y compris le fait qu'un tandem Chrysler-Fiat pourrait devenir à terme le premier constructeur à proposer des voitures faisant du 65 km au gallon, 3,8 litres. Si ce n'est que, sous le coup de l'émotion, il a dit « les premières voitures produites aux États-Unis qui pourraient faire du 65 km à l'heure ». Le silence a envahi la pièce un instant, puis tout le monde a éclaté de rire. Prenant conscience de son erreur, Dees a piqué un phare. Derrière sa moustache, son visage angélique est devenu écarlate. J'ai souri en me relevant de mon siège. Vous savez, il se trouve que ma première voiture était une Fiat de 76, et je racontais en rassemblant les papiers que j'avais devant moi. Je l'avais achetée d'occasion quand j'étais en première année à la fac. C'était une manuelle de couleur rouge. Si mes souvenirs sont bons, elle dépassait le 65 km à l'heure. Enfin, quand elle n'était pas en réparation. La pire voiture que j'ai jamais eue. J'ai fait le tour de la table, tapoté le bras de Dees, et avant de franchir la porte, je me suis retourné. « Les gens de chez Chrysler vous remercient, ai-je dit, d'avoir attendu que je prenne ma décision avant de mettre en avant cet argument-là. » On dit souvent que l'on tresse trop de lauriers au président lorsque l'économie va bien et qu'on lui fait trop porter le chapeau en cas de marasme. En temps normal, c'est vrai. Toutes sortes de facteurs, d'une décision de la Fed sur laquelle le président n'a juridiquement aucune autorité de baisser ou de monter les taux d'intérêt, aux vicissitudes des cycles économiques, en passant par le mauvais temps qui retarde un chantier ou un pic du prix de certaines denrées à la suite d'un conflit à l'autre bout du monde, ont probablement plus de chances d'avoir un effet avéré sur l'économie au jour le jour que la moindre action du président. Même des initiatives fortes de la Maison-Blanche, comme une importante réduction d'impôts ou une refonte de la réglementation, n'ont souvent des conséquences sur la croissance du produit intérieur brut ou sur le chômage que des mois ou des années plus tard. Finalement, la plupart des présidents travaillent sans connaître le résultat de leurs actions. Les électeurs ne peuvent pas non plus en mesurer les effets. Il y a là sans doute une certaine injustice. Au gré des accidents du calendrier, un président peut être puni ou récompensé dans les sondages pour des événements sur lesquels il n'a eu aucun contrôle. En même temps, cela offre aussi à un gouvernement une certaine marge d'erreur, permettant aux dirigeants d'instaurer de nouvelles politiques, sachant que tout ne dépendra pas des mesures qu'ils auront prises. En 2009, toutefois, la situation était différente. Au cours des 100 premiers jours après mon entrée en fonction, il n'existait pas de marge d'erreur possible. Chacune de nos initiatives comptait. Chaque Américain était attentif à ce que nous faisions. Avions-nous relancé le système financier, stoppé la récession, remis les gens au travail, permis aux familles de garder leur maison? Notre bulletin de notes était diffusé au quotidien. Tout le monde pouvait le voir et chaque fragment de données économiques, chaque information ou anecdote faisait l'objet d'une appréciation. Du matin au réveil, jusqu'au moment de se coucher, mon équipe et moi étions conscients de cela. Je songe parfois que seul le fait que nous ayons été à ce point occupés pendant ces mois nous a permis de ne pas céder à la panique générale. Après les décisions concernant General Motors et Chrysler, les principaux piliers de notre stratégie étaient dans l'ensemble en place, ce qui signifiait que nous allions pouvoir porter notre attention sur sa mise en œuvre. Le groupe de travail sur le secteur automobile a négocié un changement de l'équipe managériale de GM, travaillé à la fusion de Fiat et de Chrysler, à l'élaboration d'un plan solide pour les redressements judiciaires, ainsi qu'à la réorganisation des deux constructeurs automobiles. L'équipe logement, pendant ce temps, établissait le cadre pour les programmes AMP et ARP. Les réductions d'impôts et les allocations aux États du Recovery Act ont commencé à affluer. Joe Biden et le fort compétent directeur de cabinet Ron Klain étant responsables de l'allocation des milliards de dollars destinés aux projets d'infrastructure, toujours soucieux de réduire au maximum le gaspillage et la fraude. Quant à Tim et à son équipe économique, encore peu nombreuses au Trésor, ils continuaient, aux côtés de la Fed, à éteindre les incendies du système financier. Tout cela était mené au pas de charge. Lorsque je retrouvais mon équipe économique pour notre point régulier du matin, les visages de ceux qui étaient installés en fer à cheval sur les chaises et les canapés du bureau ovale trahissaient leur épuisement. Plus tard, on me rapporterait que les gens se hurlaient parfois dessus lors de ces réunions, conséquence de disputes légitimes, de luttes d'influence, de fuites dans la presse, d'absence de week-end ou de trop nombreux dîners tardifs à base de pizza ou de chili provenant du mess de la marine au rez-de-chaussée de l'aile ouest. Aucune de ces tensions ne dégénérait en véritable rancœur, ni n'empêchait que le travail soit fait. Était-ce du professionnalisme, une marque de respect vis-à-vis de la présidence, la compréhension de ce qu'un échec pourrait signifier pour le pays, ou encore une solidarité collective forgée par les attaques de plus en plus vives qui nous visaient de toutes parts? Toujours est-il que tout le monde a plus ou moins réussi à tenir le choc, tandis que nous attendions un signe, le moindre signe, indiquant que nos plans pour mettre un terme à la crise seraient réellement efficaces. Et finalement, fin avril, la nouvelle est tombée. Tim est passé dans le bureau ovale pour me dire que la réserve fédérale, qui était demeurée mutique durant tout son audit des banques, avait enfin livré un premier retour au Trésor concernant les résultats du test de résistance. « Alors, ai-je demandé, tâchant de décrypter l'expression de Tim, qu'est-ce que ça donne ?»« Bon, les chiffres sont encore susceptibles de changer. » J'ai brandi les mains en l'air en un geste d'exaspération feinte. « Mieux que ce à quoi nous nous attendions, monsieur le Président, » a lâché Tim. « Ce qui veut dire ?»« Ce qui veut dire que nous avons sans doute passé le cap. » Sur les 19 établissements financiers d'importance systémique ayant été soumis aux tests de résistance, la Fed avait accordé un certificat de bonne santé à 9 d'entre eux, estimant qu'ils n'auraient pas besoin de lever davantage de fonds. 5 autres banques avaient besoin d'un apport de capital supplémentaire pour atteindre le seuil de référence de la Fed, mais semblait néanmoins suffisamment robuste pour pouvoir lever ses fonds auprès de sources privées. Il restait donc 5 établissements, dont Bank of America, Citigroup et GMAC, le bras financier de General Motors, qui auraient probablement besoin d'une aide supplémentaire de l'État. Selon la Fed, le montant ne dépasserait pas les 75 milliards de dollars, une somme que les fonds du TARP pouvaient largement couvrir si nécessaire. « On n'en a jamais douté un seul instant », ai-je dit, pince sans rire, quand Tim a eu terminé. C'était la première fois depuis des semaines que je voyais un sourire sur son visage. Si Tim avait le sentiment que les résultats du test de résistance lui donnaient raison, il n'en a rien laissé paraître. Il a néanmoins reconnu, des années plus tard, avoir ressenti une certaine satisfaction à entendre les mots « Vous aviez raison » dans la bouche de Larry Summers. Pour l'instant, nous allions garder l'information pour nous, au sein de notre cercle restreint. Nous ne voulions surtout pas nous réjouir prématurément. Lorsque la Fed a publié son rapport final, 2 semaines plus tard, ses conclusions n'avaient pas changé et, en dépit d'un scepticisme persistant de la part de commentateurs politiques, le public qui comptait, les marchés financiers, jugea les audits rigoureux et dignes de foi, ce qui a provoqué un nouvel afflux de confiance. Des investisseurs se sont mis à réinjecter des liquidités dans les institutions financières presque aussi rapidement qu'ils les avaient retirées. Les sociétés ont constaté qu'elles pouvaient de nouveau emprunter pour financer leurs opérations au jour le jour. De même que la peur avait aggravé les pertes bien réelles des banques issues de la débauche d'emprunts à risque, le test de résistance, assorti des importantes garanties du gouvernement américain, avait d'un coup ramené les marchés à la raison. En juin, les 10 établissements financiers en difficulté avaient levé plus de 66 milliards en fonds privés, ce qui ne faisait plus qu'un différentiel de 9 milliards de dollars. Le fonds de liquidité d'urgence de la Fed avait pu réduire des 2/3 son investissement dans le système financier. Et les 9 plus grandes banques du pays avaient remboursé les fonds TARP accordés par le Trésor à concurrence de 67 milliards de dollars avec intérêt. Près de 9 mois après la chute de Lehman Brothers, la panique semblait derrière nous. Plus d'une décennie a passé depuis cette période périlleuse au début de ma présidence, et si les détails sont flous pour la plupart des Américains, La gestion de la crise par mon gouvernement fait aujourd'hui encore l'objet de débats houleux. En s'en tenant strictement aux faits, il est difficile de contester les résultats de nos actions. Non seulement notre secteur bancaire s'est stabilisé bien plus rapidement que ceux de tous ses homologues européens, mais le système financier et l'économie en général ont renoué avec la croissance bien plus vite que n'importe quelle nation dans l'histoire après un choc d'une telle ampleur. Si j'avais prévu le jour de ma prestation de serment qu'en un an le système financier américain serait stabilisé, que presque tous les fonds du TARP seraient entièrement remboursés, ayant donc rapporté de l'argent aux contribuables au lieu de lui en coûter, et que l'économie aurait entamé ce qui serait la période de croissance continue et de création d'emplois la plus longue de l'histoire américaine, la majorité des pontifs et experts auraient douté de ma santé mentale, ou bien auraient supposé que je fumais quelque chose de plus fort que du tabac. Pour de nombreux commentateurs sérieux, toutefois, le problème est précisément que j'avais orchestré un retour à la normale d'avant la crise, une occasion manquée, voire une pure trahison. Selon cette vision, la crise financière avait été une opportunité de redéfinir les critères de la normalité comme on n'en connaît qu'une par génération, de refondre non seulement le système financier, mais l'économie américaine dans son ensemble. Si seulement j'avais démembré les grandes banques et envoyé en prison les coupables en col blanc, si seulement j'avais mis un terme aux parachutes dorés et à la culture « face je gagne, pile tu perds » de Wall Street, alors peut-être aurions-nous aujourd'hui un système plus équitable au service des familles d'honnêtes travailleurs et non pas d'une poignée de milliardaires. Je comprends ces frustrations. À mains égards, je les partage. Aujourd'hui, je suis de près les rapports qui pointent l'augmentation des disparités en Amérique, l'ascenseur social grippé et la stagnation des salaires, avec toute la colère et les distorsions que ces mouvements éveillent dans notre démocratie. Et je me demande si j'aurais dû être plus audacieux au cours de ces premiers mois, disposé à infliger plus de souffrances économiques à court terme pour viser un ordre économique plus juste à jamais changé. La question me taraude. Et pourtant, même si j'avais le pouvoir de revenir dans le passé et de recommencer, je ne peux pas affirmer que je ferais des choix différents. Dans l'absolu, toutes les solutions alternatives et occasions manquées que brandissent les détracteurs semblent plausibles, de simples points de bascule dans un conte moral. Mais lorsque vous vous penchez sur les détails, chacune des options qu'ils proposent, que ce soit la nationalisation des banques, la redéfinition des infractions pénales afin de poursuivre en justice les cadres des banques, ou simplement l'abandon d'une portion du système bancaire pour éviter l'aléa moral, aurait infligé une violence à l'ordre social, un déchirement des normes politiques et économiques, ce qui, presque certainement, n'aurait fait qu'aggraver les choses. Pas pour les riches et les puissants, qui trouvent toujours le moyen de retomber sur leurs pattes, mais précisément pour les gens que je prétendais sauver. Dans le meilleur des cas, l'économie aurait mis plus de temps à se remettre, avec plus de chômage, plus de saisies immobilières, plus d'entreprises qui auraient mis la clé sous la porte. Dans le pire des cas, nous aurions basculé dans une crise généralisée. Quelqu'un doté d'une âme plus révolutionnaire pourrait répondre que le jeu en valait la chandelle, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais autant j'étais prêt à perturber le cours de ma vie à la poursuite d'une idée, autant je ne souhaitais pas prendre ces mêmes risques avec le bien-être de millions de gens. En ce sens, mes 100 premiers jours à la Maison-Blanche ont révélé un trait fondamental de mon caractère. J'étais un réformateur, conservateur de tempérament, à défaut de l'être dans ma vision du monde. Quant à savoir si c'était une preuve de sagesse ou de faiblesse, il appartiendrait à d'autres d'en juger. De telles réflexions ne me sont venues que plus tard. À l'été 2009, la course ne faisait que commencer. Une fois l'économie stabilisée, je savais que j'aurais plus de temps pour enclencher des changements structurels dans la fiscalité, l'éducation, l'énergie, la santé, la législation du travail et l'immigration, qui avaient été mes thèmes de campagne. Des changements qui, fondamentalement, rendraient le système plus juste et élargiraient les perspectives des Américains ordinaires. Déjà, Tim et son équipe préparaient des options pour un train de réforme de Wall Street que je présenterai plus tard au Congrès. Entre-temps, j'ai essayé de me rappeler que nous avions évité au pays de sombrer dans le désastre, que notre travail commençait à porter ses fruits. Le meilleur accès à l'assurance chômage permettait à des familles dans tout le pays de tenir le coup. Les réductions d'impôts pour les petites entreprises autorisaient quelques travailleurs supplémentaires à continuer d'être payés. Les enseignants étaient dans les salles de classe, les policiers sur le terrain. Une usine automobile qui avait été menacée de fermeture tournait encore, et la renégociation d'un prêt immobilier permettait à quelqu'un, quelque part, de ne pas perdre sa maison. L'absence de catastrophe, le maintien de la normalité, n'attirerait pas l'attention. La plupart des gens concernés ne sauraient même pas comment les mesures que nous avions prises avaient affecté leur vie. Mais, au fil de mes lectures dans la salle des traités, tard le soir, Je tombais parfois sur une lettre sortie du classeur mauve qui commençait à peu près comme ça. Cher président Obama, je suis sûr que vous ne lirez jamais cette lettre, mais je me disais que ça vous plairait peut-être de savoir qu'un des programmes que vous avez lancés m'a vraiment sauvé la vie. Je reposais alors la lettre et sortais une carte pour rédiger une brève réponse. J'imaginais son destinataire recevoir l'enveloppe officielle de la Maison Blanche, l'ouvrir, l'air perplexe, puis se mettre à sourire. Il la montrerait à sa famille, l'emporterait même peut-être à son travail. La lettre finirait dans un tiroir, quelque part, oubliée sous l'accumulation de joie et de peine qui constitue une vie. C'était normal. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que les gens comprennent combien leur voix comptait pour moi. Que c'était grâce à elle que j'avais tenu bon et réussi à repousser les doutes qui s'insinuaient en ces tardives soirées solitaires.